ce gars, c'est un gaffe. Regarde sa figure.
Trouble. Uphold the law.
You are under arrest.
What is this shit?
Justice. Gets an upgrade.
Looking for me? Your move, creep.
RoboCop.
Thank you for your cooperation. Good night.
Bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé lors du précédent C'est quoi le cinéma, nous nous efforçons de combler notre absence et notre manque d'émissions sur les nouvelles sorties. Heureusement, il reste les ressorties et ces films que l'on ressort du placard pour les remettre en avant, souvent dans des versions remasterisées d'une exquise beauté. Aujourd'hui, c'est au tour de RoboCop, réalisé par Paul Verhoeven, de faire peau neuve. Pour m'accompagner, je suis toujours en compagnie de William. Salut William.
Salut Louen.
De Mathéo.
Salut, salut. Content de revenir.
Et enfin de Louis qui nous rejoint.
Eh bien le bonjour.
Avant de commencer sur RoboCop, il est important de recontextualiser de qui est Paul Verhoeven et pourquoi a-t-il fait RoboCop. Je n'ai rien préparé à ce sujet, donc est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Paul Verhoeven, votre manière d'appréhender son cinéma, et est-ce que vous avez un moyen aussi d'appréhender ce RoboCop, ce qu'on vous a dit, de quoi vous vous attendez quand vous l'avez découvert?
Alors écoute, RoboCop, je sais qu'il a une importance un peu capitale dans le cinéma de Paul Verhoeven, parce qu'à l'origine déjà, Paul Verhoeven n'était pas forcément très enthousiaste à l'idée de faire ce film. Il voyant un film un peu de commande où il ne pourrait pas complètement exploiter le sel de son cinéma, hein, c'est-à-dire des objets un peu pulp, toujours très violents, avec une certaine dénonciation aussi politique et toujours une certaine manière de confronter les rapports entre sexes. Et il me semble que c'est sa femme qui l'a convaincu finalement de faire ce film.
C'est
un film qui se révèle très intéressant justement parce que dans l'ère un peu à l'époque de Reagan aux États-Unis, Paul Verhoeven assume complètement de faire un film très politique et questionnant les pratiques du libéralisme d'ailleurs d'époque. Et voilà, ça, on va dire que ça se situe dans les films que Paul Verhoeven a fait aussi dans la SF, comme Total Recall et évidemment Starship Troopers, toujours avec une violence suresthétisée. Et la participation, tu me corriges, Loane, si je dis une bêtise, de Phil Tippett, il me semble, pour
oui.
Pour
les effets spéciaux.
Pour les effets spéciaux.
Base de stop motion, justement, notamment pour les gros droïdes policiers, notamment un qui se fait éclater. Voilà, c'est des effets spéciaux qui piquent un petit peu les yeux, mais je trouve qu'avec la nouvelle restauration, ça passe très très bien.
Je ne suis pas forcément d'accord sur ce point, je trouve qu'ils sont vraiment bien vieillis. Alors oui, on voit toujours cet aspect un peu robotique, j'ai envie de dire, de la stop motion, mais qui marche très bien sur ce point. Et franchement, non, pour l'avoir découvert en salle, parce que j'avais jamais vu RoboCop, du coup c'était la première fois que je regardais ça, et pour l'avoir découvert là, j'ai pas été surpris par les effets spéciaux, sauf peut-être un à la fin avec un fond vert un peu dégueu, mais je pense que c'est aussi l'époque qui fait que. Mais sinon, franchement, j'ai été agréablement surpris par les effets spéciaux.
Oui, bah après c'est un film qui est sorti en 1987, donc forcément par rapport aux effets spéciaux qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des techniques différentes, c'est des techniques qui ont un peu vieilli par moment, mais c'est vrai que je trouve que la nouvelle restauration par Splendor Film fait que ça passe crème, surtout quand on recontextualise à l'époque. D'ailleurs, Mathéo Louis, vous l'avez découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un film qui a, avant de venir vraiment sur ce que ça raconte, etc., c'est un film qui a pour... préjugé d'être un actionneur des années 80, un peu débilisant, où ça tire dans tous les sens. Où... Voilà, c'est un film qui est devenu un emblème de la pop culture pour être un actionneur, etc. Est-ce que c'est ce dont à quoi vous vous attendez quand vous l'avez vu, ou est-ce que vous vous attendez à autre chose?
Moi, j'étais très, très, très surpris parce qu'effectivement, tu le dis, hein, c'est RoboCop. C'est cette icône actionneur des années 80, au même titre que Rambo.
Terminator aussi, hein.
Terminator, ouais, un peu brut de décoffrage, etc. Et j'avoue que moi, j'ai découvert, par exemple, Robocop et la saga via Robocop 3. Quelle idée vous allez nous dire? Surtout que ce premier film de Verhoeven est, tu l'as dit, vraiment extrêmement politique. J'arrive pas à savoir où le situer encore pour l'instant, mais je suis vraiment en tout cas surpris qu'il ait atteint cette réputation de actionneur et qu'à l'époque, on ait montré ça à des gosses. Parce qu'il y a eu des jouets Robocop, il faut pas l'oublier. S'il y a eu des suites qui sont un peu plus destinées à un format familial, c'est aussi que des gosses ont vu le premier. Quelle idée ! C'est une vraie question que je pose, parce que enfin, le film est très, très, très violent visuellement. Enfin, il y a tellement de sous-textes, de sous-entendus dans tout le film, que ce soit politique, sexuel, enfin, même au niveau de comment est-ce que le corps fonctionne. Enfin, moi, ça m'a vraiment fasciné de me poser la question à la fin du film de pourquoi est-ce que c'est devenu une icône à ce point, notamment dans la pop culture, là où je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le personnage de Judge Dredd, le film avec Stallone, hein. Je parle bien sûr de l'icône Judge Dredd du comics qui, je trouve, sont deux personnages extrêmement similaires dans leur manière d'aborder tout ce contexte politique, notamment autour de la police, autour de la pauvreté, autour de comment est gérée cette scission sociale dans une société qui ne veut plus de pauvres, mais que des ultra-riches, alors qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Tout ça m'intéresse énormément, et vraiment, je ne comprends pas cette iconisation à outrance du personnage de Robocop.
Surtout que c'est, comme le disait William, c'est un film qui critique l'ère réganienne, en tout cas aux États-Unis, une ère qui a été en fait justement décrié pour étant un peu l'exubérance en fait du capitalisme, justement de l'expansion de l'entreprise, justement l'État qui aide plus les entreprises que le peuple pour justement créer du chiffre, augmenter les pourcentages, etc. et qui de ce fait augmenter les inégalités aux États-Unis. Et donc, du coup, le fait que ça soit devenu un emblème de pop culture et qu'il y ait des jouets, des jeux vidéo, etc. par la suite, c'est quand même un peu contre-productif. Et ça se prouve que les studios américains n'ont pas compris de quoi parler Robocop.
En fait, c'est-à-dire que j'ai eu à peu près le même, j'ai envie de dire, syndrome, entre guillemets, que j'ai eu la première fois que j'ai vu Rocky. C'est-à-dire qu'on m'avait vendu un film avec plein de bagarres, plein d'actions et tout ça. Et comme tu l'as dit, je m'attendais à un film un peu... je vais dire un mot dégueulasse et entre guillemets abrutissant, qui en gros allait être bien, mais pas non plus aussi travaillé, aussi recherché que ce qu'on pouvait avoir là. Et j'ai été très très surpris de voir la qualité du film, tous les messages surtout qui ont été mis dedans. Je tiens à dire avant tout que c'est le premier Verhoeven que je vois. Voilà, honte sur moi, énorme honte, j'en avais jamais vu avant, j'ai jamais vu Starship Troopers, mais je sais à peu près quel est son cinéma, je connais à peu près ce qu'il veut raconter, ses messages, ses satires aussi, beaucoup, notamment celle de Starship Troopers. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir une critique aussi pertinente et au premier plan sur la police, le rôle de l'État, les entreprises, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est assez marrant ce que tu disais, Louis, par rapport au jouet. Parce que peut-être que je me trompe, mais des quelques extraits que j'avais vus de Robocop 2, c'est vrai que c'est un des éléments du film. C'est-à-dire qu'on dit, mais Robocop est une figure trop violente pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça? Il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus différent. Et ces aspects qui ont été amenés dans Robocop 2 sont en réponse à la critique populaire qu'il y a eu aux États-Unis notamment, sur la violence du film, sur ce qui avait été raconté et ce qui s'y passait. Donc en fait, je pense que c'est une œuvre qui a marqué parce que à la fois c'est une critique qui est importante pour l'époque réganienne et tout ça, et je pense que c'est également, ça a marqué parce que les enfants y ont vu, je vais pas dire un défouloir, mais quelque chose qui les engageait à rester dans l'univers du film, peut-être par la violence, je sais pas trop, mais du coup ça fait que ça parle à peu près à toutes les générations. Toutes les générations peuvent se ressentir dans Robocop, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. Autant les enfants, parce que voilà, regardez, le policier, il est trop stylé, il tue les méchants, ou il arrête et tout, il est trop fort, et les adultes par la satire sociale. Donc je trouve que c'est vraiment très très fort comme film. Et honnêtement, ouais, j'ai été très très agréablement surpris et je ne m'attendais pas à autant apprécier.
Et en plus, quand tu parlais du 2, ce qui est intéressant avec le 2, et je pense que c'est sa seule qualité vraiment originale, parce que sinon ce n'est qu'une redite du premier, c'est que dans le 2, l'antagoniste est un enfant, justement, un enfant qui gère toute une meute et qui. J'ai plus trop de souvenirs, mais ça suit un peu ton raisonnement justement sur ce que tu as vu du 2. Pour terminer sur qu'est-ce que c'est Robocop, il y a quelques précisions. J'avais noté justement que le film au départ a été proposé à David Cronenberg, qui a refusé, et qui a été ensuite proposé à Jonathan Kaplan. Ce nom vous dit peut-être rien, mais moi je sais que de lui j'ai vu Bangkok Aller Simple et je suis très bien content qui n'est pas réalisé ce Robocop. C'est un film qui a été aussi produit par Orion Pictures, une petite société indépendante qui avait produit quelques années avant ça le premier Terminator de James Cameron. Voilà. Et c'est un film également qui introduit Paul Verhoeven dans une longue ère américaine où après ça, il va réaliser Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers. Et etc etc jusqu'à temps que il arrive à son ère française avec Elle et Benedetta tout récemment. D'ailleurs, on va pas en parler ici, je pense, mais Paul Verhoeven, c'est aussi avant tout une ère hollandaise, cinémateur, c'est un cinéaste hollandais. Et donc on avait déjà parlé dans ce podcast de la chaîne Elle Sent dans les premiers épisodes. Je vous invite à aller réécouter celui-là. Qu'est-ce que ça raconte Robocop? Ça se passe dans un futur dystopique à Détroit, où l'officier de police Alex Murphy est gravement blessé par un gang criminel et il va renaître sous la forme de Robocop, un cyborg policier surpuissant. Alors qu'il combat le crime, Robocop commence à se rappeler son passé d'humain et découvre la machination corrompue au sein de l'OCP, la société qu'il a créée. Il affronte finalement ses manipulateurs et regagne son identité en tant que Alex Murphy. William, je sais que toi, tu es un grand amateur de Paul Verhoeven. Est-ce que toi, tu vois une certaine correspondance avec les films qu'il va faire par la suite et son cinéma en tant que tel?
Je pense que ce qui est plus flagrant tant que, on va dire, qu'obsession qui est un petit peu actualisée dans ce film-là, c'est que ça reste quand même très concentré sur l'idée d'une institution, donc dans un caractère très dystopique, qui vraiment enferme les personnages. Et même si c'était un peu présent sans doute dans ses films précédents, ça allait encore plus ici et ça va prendre une forme encore plus importante dans Starship Troopers, avec tout un amas de soldats qui sont un peu aliénés à la même propagande, la même chose qu'on leur inculque. Et je pense vraiment que c'est quand même quelque chose là qu'il apporte de neuf dans son cinéma avec ce film, à un point où bien que son cinéma, pour un moment, on pourrait dire qu'il y a un côté un peu nihiliste, les images dans Robocop sont quand même assez fortes et extrêmement pessimistes, évidemment, sur l'humanité. Mais personnellement, j'en garde vraiment le souvenir de Verhoeven qui filme une société qui est tellement sur un point de vue dans la régression pure, c'est-à-dire des personnages qui ne peuvent même plus interagir avec leurs émotions, qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, qu'il ne reste plus que la force brute qui dépasse toute considération sociale et politique. Et ça, c'est quand même une obsession qu'on trouve dans tous ces films. On parlait de la chair et le sang, mais c'est la même chose. C'est-à-dire à quel point, en tant qu'homme, on peut céder à la violence et ne plus réfléchir ce qu'on ressent. Et puis après
justement, pour rester sur cette idée qu'il y a une institution, Verhoeven est notamment connu pour être un réalisateur blasphématoire, en fait, qui déteste un peu, qui critique justement la religion, notamment chrétienne. Et ici, dans Robocop, tout comme c'était le cas dans La chair et le sang, hein, au vu du sujet, j'y vois aussi une critique, en plus de l'ère régalienne, qui, elle, est aussi une institution, une critique aussi de la vénération de Robocop est presque retranscrit comme étant une figure comme Jésus, ressuscité, crucifié. Je sais pas si toi ou Louis, Mathéo, j'ai envie de rester sur ce sujet-là, justement de l'institution, que ce soit réganienne ou alors religieuse, pour ensuite partir sur autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai envie de structurer un peu ça.
C'est vrai que cette vision d'un Robocop christianisé est complètement réel, parce que du coup, forcément, comme on l'a dit, l'homme mort qui est ressuscité et qui est adulé de tous, et que tout le monde dit « Regardez, c'est super ce qu'il fait, écoutez sa bonne parole, tout se passe bien avec lui, tout est bon. » Alors qu'en fait, moralement, même lui, je pense que à un moment... en fait, le truc, c'est que Robocop ne se remet jamais en question parce qu'il n'est pas programmé par ses créateurs pour le faire. Et c'est un peu le même principe quand, si on veut critiquer la religion, c'est que, principalement la religion chrétienne, Jésus a été fait à l'image de son père, donc il ne se remet jamais en question les enseignements de son père et de son créateur. Et si on y voit du coup une critique de la religion chrétienne, eh bien, on voit aussi que le Messie ne remet jamais en question les enseignements qu'il donne aux gens. Et je pense que ça se voit particulièrement avec une des scènes, c'est celle de de l'usine de cocaïne. En fait, c'est une scène dans le film, trois quarts du film à peu près, où Robocop va chercher des informations sur le grand méchant, on va dire, et il rentre dans une usine de cocaïne et sans même oser ou daigner faire quoi que ce soit pour essayer de calmer la situation, part tout de suite dans une fusillade gigantesque et ne sauve que le type dont il sait qu'il a besoin. Donc en fait, il a moralement l'idée de vouloir faire le bien, mais ne remet jamais en question le bien qu'il fait. Donc en fait, c'est un personnage qui, comme le Christ, j'ai envie de dire, ne va pas remettre en question la parole de ses créateurs. Et je trouve que c'est une vision qui est pertinente, surtout par rapport à ce que vous me dites de Verhoeven, qui m'a l'air d'être un type qui apprécie grandement.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais pareil, pour parler de ça, il y a tout simplement dans les dernières scènes du film, Robocop qui marche sur l'eau et qui va dire en direction de son agresseur, il va lâcher un truc genre « je ne t'arrête plus ». Là où avant, pareil, il disait « au nom de la loi, je vous arrête » et ça va finalement, quand il va retrouver son âme humaine, changer en un « obtempéré si vous ne voulez pas mourir ». C'est des choses que... voilà, qu'on voit que Verhoeven met dans son film, quand bien même ici, ça reste quand même une métaphore plus que quelque chose qui va être appuyé. On sent que c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'en revenir, là où à côté, l'ère régalienne, enfin, on le sent, hein, y a tout ce côté entreprise avec justement OCP, etc., qui, elle, est beaucoup moins subtile, quand bien même je pense que beaucoup d'Américains n'ont pas compris le film, donc Ça veut tout dire. Louis, tu voulais...
Je pense que je fais partie de ces Américains qui n'ont pas compris le film. Non, j'arrive pas à situer le film politiquement parlant. Je ne sais pas si c'est un film purement... on va prendre les standards français, hein, mais c'est uniquement pour faciliter les choses. Je ne sais pas si c'est un film de gauche ou de droite, étant donné qu'on a quand même un flic qui, comme vous le dites, tue sans réfléchir. Genre, crime, tu vas payer. Aucune réflexion. Tu as essayé de voler, on va t'arracher la main. Et ça rapporte encore au truc de la religion. Hein. Le premier braqueur qu'on voit, il le laisse en vie, mais il lui démonte la main avec son fusil. Et c'est ce rapport à la religion de tu ne voleras pas, sinon te coupe la main.
Personnellement, ce que j'y vois justement avec ce personnage qui tue sans réfléchir, c'est Verhoeven qui pousse tellement très loin le côté actionneur qui vient le parodier. Je sais même pas si vraiment, il faut forcément le voir plus que ça comme quelque chose de politisé là-dessus, mais plus comme le côté grand guignolesque où Verhoeven se moque un peu du film de commande qu'on lui a proposé à la base et qui du coup va venir pousser le truc jusque je veux dire le robot va continuer de tuer parce qu'on lui a dit de tuer. Enfin, tu vois, je pense vraiment qu'il y a ce côté parodique de l'actionneur qui revient sans cesse en partie avec ça derrière.
Ouais. Après, je pense que si le film est difficile à placer dans le côté politique, c'est principalement parce qu'en fait, Robocop, oui, de notre point de vue à nous, fait des choses mal parce qu'il il tue des gens. C'est concrètement notre vision de spectateur et en mode, putain, voilà, c'est abusé quand même, là, ce qui se passe.
Et est-ce que c'est pas parce que Verhoeven... pense que Robocop est l'antagoniste de cette histoire.
Peut-être, mais en fait, justement, ce que j'allais dire, c'est que le film ne lui donne jamais tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où un personnage veut dire « Oh là là, franchement, Robocop, tes actions, c'est pas foufou. » Donc je pense que si les gens n'ont pas compris le truc, alors oui, on va me dire « Oui, mais regardez, le type Verhoeven, il ne va pas le mettre en avant, tout ça, machin. » Et c'est entre les lignes, mais le film ne donne jamais tort à Robocop, à tort ou à raison, hein, encore une fois. Et je pense que c'est pour ça qu'autant de gens sont un peu perdus.
Je pense que si le film ne donne jamais tort à Robocop, c'est uniquement parce qu'il ne donne jamais tort au capitalisme. Parce que si on réfléchit bien, Robocop est un produit du capitalisme. C'est-à-dire que c'est un robot qui a été créé, issu du corps humain, etc. On a retiré de l'humain sa substantifique moelle, littéralement, physiquement parlant, j'ai envie de dire. On lui a retiré son âme et à l'intérieur, on en a fait un objet. Un objet au service du pouvoir, étant donné que le pouvoir dans ce film, il n'est pas lié directement au président, il n'est pas lié directement à une forme d'entité sociale. Non, il est lié à une entreprise qui s'appelle, excusez-moi, j'ai pas le nom de l'entreprise.
OCP.
Et cette entreprise OCP, elle est dirigée par des gros cons, parce que tu faisais le lien tout à l'heure avec le père de Jésus, etc., et que Robocop serait du coup une allégorie de Jésus, et que donc du coup, ça fait de l'allégorie de Dieu, le créateur de Robocop, qui est un gros con qui se démonte la gueule à la cocaïne juste pour faire plaisir, enfin juste pour pouvoir écraser les autres employés et passer au-dessus de tout le monde au sein de sa hiérarchie dans son entreprise, qui est elle-même dirigée par un autre gros con. Donc du coup, excusez-moi de faire le rapprochement comme ça, Robocop est au service des gros cons. Et à la fin du film, malgré le fait que le vrai méchant soit puni, parce que oh là là, quand même, il a manipulé beaucoup de gens pour se faire beaucoup d'argent. Bah ouais, et le gros patron de l'entreprise est quand même toujours là, et ils vont continuer à manipuler beaucoup de gens pour se faire toujours de l'argent. Donc bon, je pense vraiment que c'est là où on voit le vrai côté satirique du film. Il n'y a pas de solution. On ne nous propose pas de solution, et la solution que Robocop nous propose n'est que violence à incompréhension.
Mais justement, est-ce que c'est pas parce que toi, toi qui voulais ranger justement le film dans une case gauche ou droite, est-ce que c'est pas justement se camoufler dans de la droite pour dire de la gauche?
Ah, mais je pense totalement, et c'est pour ça que c'est un film qu'on peut pas placer politiquement parlant, parce que en même temps, on nous montre une Amérique qui est vraiment délabrée, où il y a un taux de criminalité qui est très fort, mais c'est parce que faut quand même se rappeler que les trois quarts des criminels de ce film sont juste des criminels qui sont en mal de thunes. Genre, les mecs ne savent pas vivre. Ils vivent soit dans des usines désaffectées ou abandonnées, soit dans des bidonvilles. Donc, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, les mecs, ils pètent des câbles. Et qui on a en opposition à ça? Des gros riches qui vivent dans des grosses maisons, qui sont dans des grands bâtiments au-dessus de toutes ces villes de Détroit. Donc, en fait, c'est vraiment David contre Goliath, et ils sont obligés, je pense, aussi d'en arriver là.
Le film, je trouve qu'il pourrait presque rappeler un peu dans cette même esprit critique, on va dire, la société américaine, un film comme Invasion Los Angeles, enfin They Live, de Carpenter, un peu à la même époque, justement, où Carpenter critique l'abrutissement par les médias et la société qui ne peut plus réfléchir. Mais sauf que là, Verhoeven, en fait, ouais, c'est... Il vient se camoufler, justement, comme vous l'avez dit, parce qu'il vient pas prendre les précautions. C'est-à-dire que lui, il va complètement épouser tout ce qu'il y a de plus gênant, voire caricatural, pour dénoncer la chose. Et en même temps, c'est également ce qu'il fait dans Starship Troopers, mais on peut prendre le film comme un film de droite si on cherche pas à comprendre un peu les éléments gênants qui sont poussés à l'extrême derrière. Après, voilà, enfin, j'ai envie de dire, c'est le terrain de jeu de Verhoeven depuis tout le début de sa filmo. Hein.
Et justement, tu disais pousser à l'extrême, et là, on parle de sujets sérieux, de politique, de religion, etc. Il faut aussi préciser que Robocop est un film drôle. C'est-à-dire que c'est un film où on jubile, c'est un film où très divertissant, parce qu'il arrive, au travers son apothéose, son exubérance, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les propos, dans les répliques, dans les dialogues, à être drôle. Est-ce que vous avez des passages qui vous ont particulièrement fait rire? Parce que moi, j'en ai un avec un doigt d'honneur où Robocop va administrer une pénétration anale sur un gros robot avec son doigt. Où, en fait, c'est littéralement un robot qui encule le système. C'est très, très drôle. Ou après, il y a aussi ce truc de la station essence où le logo Shell, petit coquillage là qu'on voit souvent dans les films américains, qui est une marque de station d'essence, va faire tomber le S pour devenir Hell, donc l'enfer. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font rire Mathéo.
J'aime beaucoup cette fin absolument pas du tout, je veux dire, épique ou quoi que ce soit du robot méchant. Je ne sais plus la marque du robot qui veut contrer Robocop, je crois que c'est le SD09, enfin, je ne sais plus trop quoi. Et où juste en fait il tombe dans les escaliers et il n'arrive pas à se relever. Et j'ai trouvé ça très très drôle et assez ridicule. Et aussi, une scène qui m'a fait beaucoup beaucoup rire, c'est, et je pense que je vais bien aimer Starship Troopers à cause de cette scène, parce que ça m'a l'air de l'humour de Starship Troopers, c'est les passages télé des présentateurs qui présentent des faits qui sont abominables, de guerre, de regardez, là c'est la merde dans la vie, tout va mal. Et ils sont en mode « Ah, tout va bien, tout est génial, vas-y Robocop, tue tout le monde !» Et j'ai trouvé ça très très drôle. Et ouais, c'est des scènes qui m'ont beaucoup fait rire.
La preuve que c'est un film qui parle au présent, parce qu'à l'heure où nous écoutons enregistrons, il y a quelques jours, TPMP, on fait une émission hyper rigolote sur les os du petit Émile qui a été retrouvé. Comme quoi, la télé n'a pas changé, et ou du moins, Verhoeven a été visionnaire sur ce point-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit avant d'entamer peut-être le dernier sujet de cette grosse partie Robocop ?
Oui, ouais, j'aimerais parler d'une scène que j'aime pas trop. Parce que globalement, le film, je le trouvais vraiment très très bon, j'avais aucun souci avec. Et arrive la fin. Si vous voulez, il y a un moment où Robocop est en pleine introspection, comprend que, enfin, il vient de se faire démonter la gueule par son entreprise et par le gros méchant, et comprendre qu'il a été un outil, un pion dans cette histoire, et il fait une introspection sur lui-même, et du coup, il revient là où il est mort, au niveau de l'usine désaffectée, et se découvre lui-même. Et après ça, il y a une grosse bagarre. Et je sais pas pourquoi, mais cette scène, j'ai vraiment pas du tout aimé, cette scène de la grosse bagarre, où les gros méchants arrivent avec des armes qui font tout péter. Et j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai l'impression que cette scène était juste là pour dire, voilà, on conclut la scène des gros méchants avec un truc qui est cathartique pour vous, en mode, regardez, c'est la grosse action, Robocop, il est vulnérable, mais il arrive quand même à battre les gros méchants, et il est bien joué à lui, et c'est super et tout. Et ouais, je sais pas, j'ai pas compris cette scène. Peut-être que c'est moi qui ai mal interprété quelque chose, j'en sais rien, mais j'ai vraiment pas aimé cette scène de bataille où Robocop casse la gueule à des gros méchants, et j'ai l'impression que c'était un truc qui était rajouté au forceps, peut-être par les, je sais pas, peut-être par les producteurs, j'en sais rien, mais ça me semblait assez loin de tout ce qui avait été raconté dans le film jusque-là. Je sais pas si vous, c'était pareil.
Alors moi c'est, pour être totalement franc avec les auditeurs, j'ai juste regardé des scènes ce matin, mais j'ai pas revu le film, étant donné que c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois. Donc cette scène-là, je l'ai pas particulièrement revue. J'arrive à la visualiser, mais je pourrais plus dire mon ressenti et être précis dessus. Après, je me dis, pour rejoindre un peu tout ce qu'on a dit avant, c'est peut-être justement une volonté de parodier les actionneurs, en fait, justement, de cette époque-là, qui se permettaient, en fait, de faire des climax là où ils n'avaient pas forcément besoin. Juste pour prétexte, en fait, de faire de l'action. Et je dis peut-être de la merde. Louis, qui l'a revu il n'y a pas longtemps, est-ce que tu arrives à voir c'est quelle scène, de quoi ça parle?
Pas du tout, malheureusement. C'est une scène qui m'est passée au-dessus de la tête, si c'est ça. Mais oui, si je pense que si elle n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi, c'est vraiment parce que je devais être le cerveau éteint à ce moment-là, parce que c'est pas. C'est une partie du film où vraiment. Je trouve que c'est. À la fois très bien de questionner l'intériorité du personnage, mais effectivement c'est un peu ce trope des années 80, comme dans Rambo, le premier du nom, hein, je parle, il retourne dans son intériorité, il revoit le flashback du Vietnam, et du coup voilà.
Belle imitation,
merci.
Bon, avant, petit dernier sujet, parce que c'est vrai qu'on a quand même exempté ce point là de Robocop, mais Robocop, c'est avant tout Alex Murphy, c'est avant tout aussi une micro-histoire d'amour d'une femme qui essaie de retrouver son mari à travers un cyborg. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette relation? Parce que moi, je la trouve déjà très, très belle, à la fois d'être très, très subtile. C'est Louis qui fait les petits yeux, mais...
C'est vachement subtil, parce que c'est pas en mode « Regardez, il sait... » C'est vraiment en mode... Voilà, on sait très bien qu'il y a une relation... qui s'installe au début du film avec eux.
Avec
que tu connais pas la
Anne
relation.
Lewis. Donc c'est Anne Lewis, oui, c'est interprétée par Nancy Allen.
Tu ne sais pas en fait comment est Murphy avec sa femme au quotidien et sa famille. On ne sait pas, peut-être qu'il est malheureux. Et ça, on ne le saura jamais et tout ça. Donc, on ne sait pas pourquoi au début du film, il est un peu en mode dragouille avec sa collègue. Et j'aime bien que le film ne montre jamais sa femme autrement que par des flashbacks positifs. Parce que du coup, ça fait peut-être même passer Murphy pour un connard avec l'attitude qu'il a eue envers elle. Et là, Murphy qui n'avait, enfin Anne qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la vie de Murphy, découvre cet homme qui la dragouille un peu, et au final qui revient entre les morts du jour au lendemain. Et elle, voilà, elle a envie de revenir vers lui. C'est humain. Et oui, j'ai trouvé ça plutôt touchant et plutôt joli. C'est assez discret. Et c'est pas l'élément qui va le plus, j'ai envie de dire, marquer du film, mais pas celui qui va le plus déranger non plus.
Ouais, t'es pas venu sur le sujet que je voulais aller. Du coup, je pense que William va pouvoir me répondre à ce moment-là. Parce que en fait, Verhoeven, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films avec des femmes fortes, avec des femmes qui sont plutôt bien écrites, des femmes qui prennent un peu le dessus, justement, sur les hommes. On le voit très très bien avec ses derniers films, notamment Elle, Benedetta. Mais c'est également le cas dans des films comme Showgirls, dans La chair et le sang. Ici, justement, on a un personnage de Nancy Allen qui change un peu des archétypes des actionneurs de l'époque, c'est-à-dire des actionneurs à la Sarah Connor, c'est-à-dire des femmes musclées, des femmes fortes qui vont prendre la mitraillette et faire comme les hommes. Là, non, on reste sur une femme qui va pas rester à la maison à faire le ménage, mais une femme flic en 1987. Est-ce que ça t'étonne, toi, William, venant de Verhoeven, justement?
Je pense qu'il a vraiment gardé le côté personnage secondaire quand même sur ce film.
Oui,
parce
oui,
que c'est vrai que en soi, en fait, je comprends que son personnage n'ait pas forcément une importance aussi majeure que pour d'autres de ses personnages féminins. Je pense que le sujet du film est peut-être autre là-dessus, mais pour autant, comme vous l'avez dit, je trouve que le personnage reste vraiment vraiment charismatique, vraiment vraiment bien écrit, et en même temps leur relation est plutôt authentique, enfin en tout cas elle paraît authentique. Après voilà, je trouve que Nancy Allen est une actrice formidable, et ici elle est toujours aussi impeccable. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un personnage féminin que je retiendrai plus que ça dans sa filmographie, et en même temps c'est compliqué parce que enfin t'as évoqué plusieurs de ses films, mais même dans Black Book, tu vois, enfin je veux dire, il a fait tellement de films avec des femmes fortes. Par contre, je pense au film Spetters, pour le coup, si je dois faire un rapport avec un personnage féminin, parce qu'en fait dans Spetters justement il y a une femme qui attire un peu l'attention de tout un groupe de jeunes, et dont tombe amoureux en fait un des gars du groupe de jeunes. Et je dirais que c'est un peu un personnage dans cette veine là, c'est-à-dire que c'est un personnage qui suscite la fascination pour le personnage principal, mais sans pour autant être un point central de l'intrigue ou du film.
Ouais, j'ai pas vu Spetters, mais je l'ai en Blu-ray, il faut que je me mate prochainement.
Ah, il faut.
Et bah écoutez, pour terminer sur le dernier sujet rapidement, et c'est ce que j'ai envie de faire avec un peu tous les films de patrimoine qu'on va traiter, qu'est-ce qu'on retient, nous, en 2024 de Robocop? Est-ce qu'il y a des sujets auxquels ça fait par rapport avec l'actualité? Avec Mathéo, justement, on a parlé des programmes télévisés qui sont ici postés comme ironie et presque comme étant visionnaire, vu ce qui se passe en ce moment, où on est capable de rire de vraiment tout, même du plus dramatique à la télé. Mais dans une année où on a subi la grève des acteurs par rapport à l'intelligence artificielle, etc., qu'est-ce qu'on retient de Robocop? Et Robocop, c'est quand même une métaphore de la lutte de l'intégrité personnel, de la dignité humaine dans un monde encore plus déshumanisé par la technologie.
Il est bien là le problème, on retient de Robocop, malheureusement, parce que entre la société, cette scission qui se fait avec des riches toujours plus riches, des pauvres toujours plus pauvres, et au milieu de tout ça, on demande à des policiers de contrôler de toutes les manières possibles et imaginables, au lieu de se remettre en cause au niveau d'un État et de se dire peut-être c'est nous qu'on a chié dans la colle. On retient aussi eh bien, tout ce truc autour de l'intelligence artificielle, comme tu as dit, le fait qu'il y ait de moins en moins de contrôle humain et qu'on laisse place à des procédures, à des processus, notamment informatiques avec Robocop, au lieu de mettre une forme de... comment dire ? Une forme de réflexion humaine en avant, j'ai envie de dire. Et après, on a tous ces médias outrance, ultra-sexualisés, mais ça, c'est un peu un trope aussi de tous ces univers un peu cyberpunk, parce que quand même, je trouve que Robocop s'ancre dans une forme de narration cyberpunk avec ses publicités ultra-sexualisées, ses représentations ultra-masculines et viriles de l'homme. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais moi, la scène qui me fait hurler de rire, c'est après le premier braquage, la nana qui vient de se faire agresser, qui saute sur Robocop et qui fait « Vous m'avez sauvé !» et lui qui réagit pas du tout. Voilà. Moi, c'est tout ce que je retiens de Robocop.
Donc, j'ai rien à rajouter sur ce que Louis a dit. Je trouve que ça synthétise parfaitement ce qu'est le film et surtout ce qu'est le film aujourd'hui. On a des films aujourd'hui qui essayent de faire passer un message à peu près similaire, mais qui soit n'y arrivent pas, soit ne le font peut-être pas de manière aussi pertinente. Et Robocop, oui, est un film très important pour aujourd'hui, surtout avec les nouveautés technologiques, j'ai envie de dire, notamment l'IA, comme on a discuté tout à l'heure. Et oui, franchement, je n'aurais pas pu rêver meilleure séance que de voir ça au cinéma. Enfin, de découvrir au cinéma, je pense que c'était la meilleure manière de voir le film. Et j'ai vraiment passé un excellent moment devant, et je recommande absolument tous ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai eu l'impression d'avoir découvert les trois quarts des rêves de la pop culture. Enfin, c'était vraiment un bonheur.
Je dirais que revoir Robocop aujourd'hui, c'est presque se sentir un peu triste, parce que ce qui pouvait paraître grotesque et un peu comme une farce en voyant le film, qui parodie beaucoup de choses, malheureusement, c'est toujours aussi vrai quand ça questionne l'individualisme. Et voilà, après Paul Verhoeven qui fait un film américain comme ça, qui débarque pour faire son film américain et qui distribue autant d'ironie d'une manière aussi implacable, c'est toujours aussi impressionnant. Et je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de films américains, et je pense qu'il y en a même quasiment pas, qui sont capables de faire ça.
Eh ben, merci. Ah si, vous disposez de presque peut-être toutes les clés pour redécouvrir Robocop au cinéma, distribué par Splendor Film, ou dans la prochaine édition 4K qui sortira dans quelques mois. Nous avons peut-être omis certains sujets ou manqué de précision sur d'autres, et pour cela, on s'en excuse, voilà. Néanmoins, un grand merci à William.
Merci à toi.
Merci Mathéo.
Merci à toi pour l'invitation.
Et merci Louis.
C'est quand est-ce que je suis payé, moi ?
Pour leur temps et leur intervention. Quant à nous, à très bientôt, on va parler de George Miller. Des bisous.
Ça va, Robocop ?
C'est une cire.
Il y a combien, là ?
3004.